France Musique.
Il est donc temps de se lever, Dardard. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Cinq mois après sa naissance, le Centre National de la Musique se retrouve plongé au cœur de la crise sanitaire. Comment a-t-il géré les urgences? Quel scénario de sortie possible? Quelles difficultés particulières le monde du classique rencontre-t-il? Jean-Philippe Thiellet, le président du Centre National de la Musique, est notre invité à 8h50. Et s'il n'y avait aucun risque particulier de contamination au Covid dans les orchestres, le Philharmonique de Vienne s'est soumis à une étude musicale et c'est la conclusion des scientifiques. Sophie Anastasio nous la détaille, cette étude, à 9h20. C'est un projet immense, l'enregistrement de l'intégralité du répertoire grégorien. Ça se passe dans la plus grande discrétion dans une abbaye provençale. C'est l'histoire mystérieuse de Suzanne Gervais tout à l'heure à 8h30. Et puis de sa voix chaude, chaque samedi, il nous fait un film, musical bien sûr, dans Ciné Tempo sur France Musique. Thierry Jousse, c'est la voix du jour et Thierry a choisi pour nous une chanson qui fait un bien fou.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique. Avec qui ce matin? Bach, Vivaldi ou Brahms? C'est non, il est bien vivant. Voici John Adams.
We'll be right back.
démarrer en fanfare, le grand John Adams avec Short Ride in a Fast Machine. Souvenir encore ému de l'avoir reçu il y a quelques mois, un matin en direct ici dans ce studio. Un disque Adams paru cette saison avec l'Orchestre Symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano, le chef californien qui lui aussi nous a d'ailleurs rendu visite cette année ici, c'était en février, à la Maison de la Radio pour diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est à cette occasion qu'il était ici à Paris dans la musique de George Benjamin, d'André Adamek ou encore de l'un de ses maîtres à Kent Nagano, Olivier Messiaen. Eh bien, c'est ce concert que vous propose Arnaud Merlin ce soir à 20h sur France Musique. 20 mai 2020, c'était il y a 20 ans tout juste, Jean-Pierre Rampal s'en allait, tout comme le 20e siècle. Rampal, le flûtiste du siècle passé, en tout cas en France, le plus grand flûtiste, le plus célèbre, qui a fait le tour du monde. Tous ceux qui ont connu ce musicien marseillais racontent l'homme truculent, bien vivant, et puis tous ceux qui écoutent encore ces nombreux, très nombreux disques, enregistrés notamment pour la firme Erato, ils ont dans l'oreille ce son si pur, si droit, si musical, et qui va si bien à Mozart. Le voici, Jean-Pierre Rampal, en 1959 avec le trio Pasquier. C'est le premier mouvement Allegro du premier quatuor avec flûte de Mozart. Thank you. Quand on entend Jean-Pierre Ampal le jouer, on a quand même un peu du mal à croire que Mozart n'aimait pas la flûte. Premier allegro, premier mouvement allegro de son premier quatuor pour flûte et trio à cornes. Jean-Pierre Ampal donc à la flûte et le trio Pasquier. 8h11 par ce beau jour de beau soleil. Et si on faisait la fête avec distance et même en ligne, danse et fête, c'est le programme que propose Thomas Engelbrock à la tête de l'Orchestre de Paris. C'est un concert diffusé ce soir en ligne par la Philharmonie de Paris, un peu dans l'esprit des proms de Londres qui ont lieu chaque été, avec deux chanteurs, la soprano Annette Dash et le ténor Cyril Dubois. Cyril Dubois, vous l'avez aimé cette année dans son disque liste de Leader et autres mélodies avec le fidèle Tristan Raes au piano, eh bien, vous l'adorez sur le disque tout récent qu'il a consacré avec Tristan Raes toujours à Nadia Boulanger. Et comme elle manque à beaucoup d'entre nous, voici la mère de Nadia Boulanger. Extrait d'un disque tout récent paru chez Aparté, Nadia Boulanger, la mère, Cyril Dubois avec Tristan Raes au piano et la mère de Cyril Dubois, née à Ouistreham, eh bien, c'est la Manche. Tous les dimanches, plutôt tous les samedis à 13h, Thierry Jousse fait son cinéma sur France Musique dans Ciné Tempo. Thierry transmet son amour pour la musique de film, toutes les musiques de film. Ces trois prochains samedis, Thierry va revenir en musique sur la carrière de Michel Piccoli, dont on a appris lundi la disparition. Et ce matin, Thierry Jousse a choisi une musique, une chanson qui agit comme un baume, comme un antidote à la morosité. Écoutez.
France Musique,
vous allez l'adorer.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, la musique et le cinéma m'ont été d'un grand secours, m'ont accompagné pendant le confinement et d'ailleurs même avec le déconfinement. Ça se confirme, ça continue. Alors j'ai voulu vous faire partager voilà un morceau parmi de nombreux autres que j'ai écouté et réécouté pendant voilà cette longue période de confinement dont on se souviendra tous et toutes, je crois, longtemps. Alors un des compositeurs que je préfère parmi voilà les compositeurs de musique de film, c'est l'anglais John Barry qui voilà a eu une très longue carrière entre le début des années 60 et les années 90, et j'ai choisi pourrait dire pour faire écho à la sortie d'un film qui n'a pas eu lieu, le dernier James Bond, bah la chanson d'un des James Bond que je préfère, au service secret de Sa Majesté. Et la chanson de Au service secret de Sa Majesté, elle était évidemment composée par John Barry, mais elle était surtout aussi chantée par un interprète inhabituel, c'était Louis Armstrong. Ça s'appelle We Have All the Time in the World. Je trouve que c'est un titre qui s'adapte parfaitement à cette période. Nous avons tout le temps dans ce monde. Je vous laisse en compagnie de Louis Armstrong et de James Bond et de John Barry. Et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de France Musique.
We have all the time. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world. Just for love, nothing more, nothing less, only love.
le seul et l'unique Louis Armstrong. We have all the time in the world, musique de John Barry pour ce James Bond avec George Lazenby, le seul d'ailleurs avec cet acteur, certainement l'un des meilleurs de la série avec sa fin si marquante avec la sublime Dinah Rigg. Le choix ce matin de Thierry Joux, Ciné Tempo, c'est tous les samedis à 13h, hommage à Michel Piccoli. Ce samedi donc et jusqu'au 6 juin. France Musique 8h20. La pureté du son de Midori, la violoniste américaine d'origine japonaise qui est à l'affiche d'Arte Concert avec justement des œuvres pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. C'était la gigue de la troisième partita enregistrée dans le château de Köthen en Allemagne où Jean-Sébastien Bach était justement maître de chapelle. Il les connaît intimement sur le bout des doigts. Alors ce soir à 18h sur un autre site, Idagio Live, le chef hongrois Ivan Fischer joue au prof, au professeur, le directeur musical de l'orchestre du Festival de Budapest nous raconte les symphonies de Gustav Mahler et notamment la troisième composée l'été sur deux étés 1895-1896. C'est la plus longue des neuf symphonies de Mahler, plus d'une heure et demie de musique avec une alto, un chœur d'enfant. Voici le cinquième mouvement. Il évoque les anges lustig im tempo und keck im Ausdruck, joyeux dans le tempo et effronté dans l'expression.
Nicht weinen, du gütiger Gott. Du bist doch nicht weinen.
L'œuvre fait 1h30 ici, c'était le 5e mouvement de cette 3e symphonie de Gustav Mahler avec Gerrit Rombecker, le chœur d'enfants Cantemus, l'orchestre du Festival de Budapest dirigé par Ivan Fischer.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'unique tragédie lyrique de Monteclerc. Jephté est au programme d'En Piste, c'est à 9h avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Il est né il y a 5 mois et doit affronter une crise inédite. Comment le Centre National de la Musique aide-t-il les artistes? Son président Jean-Philippe Thiellet sera notre invité à 8h50. Et puis, une bonne nouvelle à 9h20, mais oui, dans Classique Info avec Sophie Anastasio, la réouverture du Centre National du Costume de Scène de Moulins, c'est dès demain. Pour l'heure, France Musique 8h29. Bonjour Suzanne Gervais.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Des nœuds mais du plein champ dans votre chronique ce matin, Suzanne, puisque vous nous présentez une application dédiée au chant grégorien.
J'ai un petit peu d'avance car l'application dont je tiens à vous parler aujourd'hui va sortir avec la fête de la Pentecôte le 31 mai dans une dizaine de jours. Mais je n'avais pas envie d'attendre pour vous présenter ce projet fascinant qui fait parler de lui depuis quelques semaines. Figurez-vous que depuis 3 ans, l'intégralité du répertoire grégorien est enregistrée dans la plus grande discrétion dans l'isolement de l'abbaye bénédictine de Jouques près d'Aix-en-Provence. Le musicien qui est à l'origine de ce projet un petit peu fou est américain, il s'appelle John Anderson et il a installé des micros dans l'abbaye pour capter les chants des religieuses. Le résultat est pentagruélique, c'est le plus grand projet jamais entrepris d'enregistrement du répertoire grégorien, répertoire qui a émergé au 8e siècle, qui représente 1 millier d'œuvres, plus de 7000 heures de musique quand même. Autant vous dire que les séances d'enregistrement ne sont pas près d'être terminées. Et le résultat, il est accessible sur une toute nouvelle plateforme, www.neums.com, neum comme un neum, mais sans le E avec un Z à la fin. Sur ce site en plusieurs langues, qui est déjà en ligne mais qui sera véritablement lancé à la fin du mois, puis à l'automne décliné sous forme d'une appli pour smartphone. Chacun des chants que vous souhaitez écouter sera synchronisé avec sa partition à la notation carrée. Les musiciens médiévistes voient tout de suite de quoi je parle. Avec le texte latin original aussi et cerise sur le gâteau, sa traduction dans la langue de votre choix ou presque. Français, espagnol, italien, anglais et même chinois. Le tout dans un graphisme épuré, élégant et je dois dire très agréable à lire. C'est une mine pour les interprètes qui voudraient se frotter à ce répertoire et les professeurs qui aimeraient initier leurs élèves de conservatoire. En vérité, vous le voyez, c'est bien plus qu'une application, c'est un grand chantier musicologique puisque des chercheurs, des médiévistes, des spécialistes de la liturgie catholique, des latinistes se sont associés à John Anderson. C'est une façon de populariser ce répertoire immense, mystérieux, méconnu et parfois bien vite qualifié d'ennuyeux. Une façon aussi d'encourager les ensembles vocaux à proposer pourquoi pas leur propre version de ces chants. Et puis on salue le choix du média, une appli très moderne pour un répertoire qu'on associe davantage aux vieilles pierres. Voilà en tout cas un projet qui témoigne de l'intérêt croissant des musiciens et du public aussi pour les musiques très anciennes. De la même manière qu'il y eut la révolution baroque dans les années 80, on assiste depuis quelques années à une autre renaissance, celle des répertoires médiévaux et renaissance. Et cette application est au diapason du mouvement.
Une application donc et un site, une plateforme, Neums, neums.com, c'est ça Suzanne?
C'est ça.
À demain, musique connectée, à retrouver sur francemusique.fr. Tiens, voici une étude autrichienne, on va en reparler dans 10 petites minutes avec Sophie Anastasio, une étude médicale selon laquelle il n'y aurait pas de risque de contamination au Covid-19 particulier, en tout cas avec les orchestres. Ce sont les musiciens du Philharmonique de Vienne qui ont joué les cobayes. Les musiciens ont été équipés d'une sonde qui a pulvérisé dans leurs bronches, par le nez, un très fin brouillard. Ils ont ensuite été placés devant une toile noire et très fortement éclairés de face, puis pris en photo en train de jouer. J'espère que vous comprenez tout jusque-là. Ce qui a permis en fait de matérialiser leur souffle rejetant ce brouillard. La conclusion, c'est que les violonistes n'ont pas dégagé plus de buée en jouant qu'au repos. Quant aux trompettistes, ils ont projeté une condensation uniquement localisée près de leur voie respiratoire. Seule la flûte traversière a émis des particules loin du musicien, jusqu'à 80 cm à suivre. Donc voici l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Andris Nelsons. Au concert du Nouvel An cette année, il joue Hans Christian Lumbi, le postillon galop. Thank you. C'était le 1er janvier de cette année au Musikverein de Vienne, le Postillon Gallo Dans Christian Lumbi. Et oui, on ne joue pas que Johann Strauss au concert du Nouvel An, l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Andris Nelsons. Que de chemin parcouru en quelques années seulement par Justin Taylor. Ce claveciniste est à l'affiche ce soir des concerts dont on parle ces jours-ci, qui sont donnés en direct de la Fondation Saint-Gerre-Polignac à Paris et diffusés sur Medici.tv. Désormais, ce musicien qui est né à Angers, voilà 28 ans, fait partie des baroqueux, comme on dit, dont le travail attire le plus l'attention. L'an dernier, il a même sorti son premier disque avec son ensemble, qui porte son nom, le Taylor Consort, disque qui croise la musique du français d'Andrieux et celle de l'italien Corelli avec sa bande de musiciens. Que de chemin parcouru donc depuis son tout premier disque récital à Justin Taylor. Il avait choisi de le consacrer à la famille Forqueray, drôle de famille de musiciens de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec Antoine, le père, qui jalousait son fils, Jean-Baptiste. Il l'a même fait emprisonner. Eh bien voici le fils, Jean-Baptiste Forqueray, joué avec tant d'inventivité, tant de poésie, par Justin Taylor.
Thank you.
La musique de Jean-Baptiste Forqueray, extrait de la 5e suite en ut mineur, c'était La Boisson, ni le café ni le thé, non, c'est le nom d'une dame, et c'était Justin Taylor au clavecin. France Musique, il est pile 8h40. Et c'est donc l'heure de Sophia Anastasio, Classique Info, ou l'heure de Classique Info avec Sophia Anastasio, comme vous voulez en tout cas. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec la ville de Paris qui adopte un plan de soutien en direction du secteur culturel.
Voté à l'unanimité par le Conseil de Paris lundi dernier, ce plan s'élève à 15 millions d'euros. 12 millions seront reversés aux acteurs culturels en difficulté que la mairie soutient de manière régulière. Elle abondera à hauteur de 500 000 euros le fonds de secours confié au Centre National de la Musique, dont le directeur Jean-Philippe Tillet sera votre invité sur France Musique dans un instant. Spectacles vivants, théâtre privé, SACD, arts contemporains et cinémas indépendants sont concernés par ce plan. Par ailleurs, une enveloppe de 500 000 euros ira aux aides à projet pour un mois d'août de la culture organisé au sein de la capitale.
On en disait un mot tout à l'heure, selon une étude réalisée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, les musiciens ne transmettent pas le coronavirus lorsqu'ils jouent de leur instrument.
Soumis à un test sous contrôle médical, les musiciens ont joué devant une toile noire avec un système permettant de matérialiser leur souffle. Résultat, seule la flûte traversière émet des particules loin du musicien jusqu'à 80 cm. Selon cette étude donc, le rassemblement d'un orchestre n'augmente pas les risques de propagation du virus si les musiciens sont placés à plus d'un mètre les uns des autres.
La 21e édition des Rencontres musicales de Vézelay est annulée.
Et avec l'Académie internationale de direction de chœur, dans un communiqué, toute l'équipe de la Cité de la Voix déclare être mobilisée pour inventer un nouvel été musical dans ce contexte inédit. Les informations doivent être rendues publiques le mois de juin.
Dans la presse quotidienne ce matin, les craintes des artisans du spectacle et des artistes qui ont besoin de l'étranger pour vivre.
Libération donne la parole aux salariés de l'ombre, ceux qui cuisinent pendant les tournées ou conduisent les tourbus aujourd'hui à l'arrêt. Ils font face à une situation économique dramatique. Dans le journal Le Monde, c'est la fermeture des frontières qui inquiète. Pour certains metteurs en scène et chorégraphes, peut-on lire, la question est vitale. Sans l'étranger, leur compagnie ne pourrait pas vivre aussi mal.
Et on termine avec une bonne nouvelle, Sophia. Le Centre National du Costume de Scène de Moulins qui célèbre sa réouverture, et ce, dès demain.
Avec un grand week-end gratuit de jeudi à dimanche, toutes les mesures nécessaires et indispensables en lien avec les recommandations sanitaires ont été mises en place, indique le centre. L'exposition Couturier de la danse est quant à elle prolongée jusqu'au 1er novembre.
Sophia Anastasio, Classique Info, on retrouve certaines de ces infos dans la rubrique Actualité musicale sur le site de francemusique.fr. À demain Sophia.
À demain.
France Musique. Vous allez l'adorer.
Allez, notre nouveauté du jour, c'est le nouveau récital de Grigori Sokolov, le pianiste russe qui a fêté ses 70 ans il y a un mois tout juste, et qui est ce qu'on appelle, sans exagération, l'une des légendes vivantes du piano. Une légende un peu construite aussi avec son personnage. Il ne donne pas la moindre interview, Sokolov, à l'inverse de Martha Argerich qui refuse les récitals depuis longtemps. Lui, il joue uniquement seul, dans les plus grands auditoriums de la planète comme dans de petites églises. Alors pas tous les auditoriums de la planète, uniquement en Europe, vous ne l'entendrez jamais à New York par exemple, il ne prend pas l'avion, il déteste les décalages horaires. Chaque année, Sokolov choisit un nouveau programme et il l'enregistre, mais toujours en public lors de concerts. Au programme cette fois, Beethoven, une sonate de jeunesse, opus 2 numéro 3, et puis les tardives bagatelles, opus 119, et puis deux recueils du Brahms des dernières années, l'opus 118, l'opus 119. Alors, les inconditionnels de Sokolov vont adorer, certains qui traitent le pianiste de gourou trouveront la prise de son bien médiocre. Le plus simple, c'est que vous écoutiez vous-même. Chaque nouveau disque de Sokolov, en tout cas, est un événement discographique. Voici, par exemple, cet intermezzo de Johannes Brahms.
Thank you.
enregistré l'an dernier à l'église de Saint Bernardo à Rabi en Italie, l'intermezzo opus 119 numéro 1 de Johannes Brahms. C'est le nouveau disque de Grigori Sokolov. Il vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Sokolov qui vient de fêter ses 70 ans. Et puis l'un de nos auditeurs fidèles, Bruno, me signale ce matin que c'est aujourd'hui les 23 ans d'Alexandre Kantorov. Bon anniversaire donc au jeune pianiste français, lauréat l'an dernier du concours Tchaïkovski à Moscou et qui doit enregistrer, si je ne m'abuse, Brahms tout prochainement. France Musique, 8h48, c'est l'heure de rejoindre notre invité.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain, France Musique.
C'est la maison commune de la musique, elle est née en début d'année, le Centre National de la Musique qui se trouve propulsé bien sûr au cœur de la crise sanitaire et en première ligne, il y a son président Jean-Philippe Thiellet en direct avec nous, bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions très concrètes, très factuelles ce matin. D'abord, en deux mois, qu'a-t-il fait le Centre National de la Musique? Comment vous avez agi et comment vous avez pu agir?
C'est une crise qui nous frappe, nous aussi, même si ça n'a rien à voir avec le côté dramatique que vivent beaucoup d'artistes et de structures. Bon, on a d'abord essayé d'évaluer la gravité de la situation. Elle est abyssale, hein. Cette crise, on l'estime aux alentours de 2 milliards d'euros de conséquences, de pertes pour l'ensemble des esthétiques, l'ensemble des structures. Et puis, nous avons fait le choix au conseil d'administration d'agir. C'est-à-dire de mettre tous les moyens tout de suite pour être aux côtés, notamment des plus petits, des plus fragiles, des petites associations, des petites entreprises. Et donc on a mis en place très très rapidement, moins d'une semaine après le début du confinement, un premier fonds de secours qui a beaucoup évolué et qui a aidé déjà plusieurs centaines de structures. Donc le choix de l'action, même si parfois on avait conscience que ces aides-là, c'était vraiment la trousse de secours dans l'urgence, on va la faire évoluer dans les prochaines semaines.
Jean-Philippe Thiellet, si je dirige une petite structure, une association, un festival et que je veux bénéficier de cette trousse de secours, très concrètement, je fais comment ?
Alors, on va sur le site du Centre National de la Musique, www.cnm.fr. On a un formulaire très simple qui a évolué du reste aujourd'hui même. Il y a un nouveau formulaire disponible aujourd'hui même pour aider à passer le cap de trésorerie très difficile du printemps et aussi de l'été et de l'automne. Il y a eu 600 dossiers instruits. On a aidé 400 entreprises, 397 entreprises et associations pour à peu près 3 400 000 euros dans toutes les esthétiques, y compris le classique. Donc CNM.fr, y compris pour toutes les mesures de l'État, puisque le CNM intervient en complément de toutes les mesures nationales.
Vous venez de le dire, vous vous occupez de toutes les esthétiques. Est-ce qu'il y a une spécificité dans le milieu classique? Et je pense notamment à tous ces musiciens indépendants. Ils ont signé une tribune publiée sur francemusique.fr qui ont pas toujours le statut d'intermittent. Vous vous occupez de toutes les esthétiques, mais dans le classique, est-ce qu'il y a des choses particulières, des régimes particuliers?
Pour les structures qui ont une licence d'entrepreneur de spectacle, puisque c'est ça qui permet de produire des spectacles, il n'y a pas tellement de particularités. Et nous avons aidé de nombreux ensembles ou petites entreprises qui produisent du classique, du baroque. On a des ensembles du reste assez connus qu'on a aidés ces dernières semaines. Pour le reste, là, on fait évoluer le fonds, d'abord pour augmenter considérablement le plafond qui passe à 35 000 euros et que des collectivités territoriales vont abonder, vous venez de le dire il y a quelques minutes. Pour les indépendants, il est aussi possible, lorsqu'on produit des spectacles, d'être aidé par ce fonds de secours. Après, pour le reste, on intervient en complément des aides nationales et donc à la fois pour l'intermittence et aussi pour des artistes ou des techniciens qui ne sont pas intermittents. Ce sont des sujets qui sont traités d'un point de vue national, malheureusement.
Jean-Philippe Thiellet, le 6 mai, Emmanuel Macron a annoncé une dotation supplémentaire de 50 millions d'euros pour le Centre National de la Musique dont vous êtes le président. Comment vous allez répartir ces fonds?
Alors, c'est un sujet que nous avons encore devant nous, puisqu'on attend une loi de finances rectificative. Ces crédits, c'est formidable que le président de la République et le ministre de la Culture les aient annoncés. Ça permet de réarmer budgétairement notre maison commune. Le premier objectif, c'est d'éviter les faillites. Et donc, les 11,5 millions d'euros qu'on a mobilisés sont déjà un peu consommés. Ces 50 millions vont nous aider à éviter des faillites et des défaillances après l'été, à l'automne. Tout ça va être très dur. Et puis aussi, ces 50 millions, eh bien, ils vont servir à redémarrer, à aider au redémarrage de spectacles, de tournées à l'international lorsque ça sera possible. Et on sait que nos artistes se projettent volontiers à l'international et peut-être aussi des enregistrements de disques, etc. On va le faire par la concertation. La maison commune, elle prévoit la concertation permanente, sont les termes de la loi. Et donc, on lance des ateliers avec tous les professionnels pour définir ensemble ce que le conseil d'administration adoptera dans le courant du mois de juin.
À suivre donc certains métiers de l'ombre. Là, on a parlé des structures, mais il y a aussi des personnes physiques qui se travaillent seules, auto-entrepreneurs, les agents, les attachés de presse. Par exemple, ils vous ont adressé une lettre, les attachés de presse, il y a quelques jours. Comment ils sont aidés? Comment peuvent-ils l'être?
La maison commune de la musique, c'est pour l'ensemble de ceux qui contribuent à produire de la musique, à faire vivre live ou musique enregistrée. Donc on a reçu les agents artistiques, les attachés de presse, on est en contact avec eux. La difficulté, c'est que ils n'entrent pas dans des cases bien déterminées et nous sommes en réflexion pour pouvoir les accompagner. Ils font partie de la grande concertation que j'évoquais. De toutes les façons, ce moment est un moment de refondation. On voit bien qu'on va pas pouvoir continuer sur les mêmes bases, y compris dans le champ de la musique, y compris dans le financement de la production de la musique. Le CNM repose pour l'essentiel sur une taxe sur les spectacles. Il n'y a plus de spectacles. Et donc, on voit bien que cette dotation de l'État, très importante, va aussi nous permettre de réfléchir à ce qui se passera en 2021 sur de nouvelles ressources fiscales ou autres. Et donc, toutes les professions ont leur place dans le CNM naturellement. Mais il n'y a pas de réponse immédiate au-delà des aides de l'État qui sont très très massives et très importantes.
Vous parlez de 2021 pour finir, Jean-Philippe Thiellet. Dans le monde de la musique, tout le monde attend la parole d'Edouard Philippe le 2 juin. Sur la question de la reprise possible des spectacles, on en parle ces derniers jours sur France Musique, une reprise très progressive en Autriche, en Italie. En France, vous avez bon espoir?
Oui, bien sûr, je garde l'espoir et la confiance. Maintenant, ça, c'est plus sur l'aspect du symbole et aussi du plaisir de retrouver le public pour les artistes et dans cette relation. Simplement, d'un point de vue économique, une reprise tronquée ne règle pas la question. Et donc, les règles sanitaires ou d'éloignement, la distanciation physique posent un problème économique majeur au-delà du symbole.
Jean-Philippe Thiellet, président du Centre National de la Musique, merci d'avoir répondu à nos questions. Et comme dans une autre vie, vous avez été le numéro 2 de l'Opéra de Paris et que l'Opéra de Paris doit rouvrir sa saison avec Donizetti en septembre, l'Élixir d'amour, eh bien, je vous propose que l'on se quitte avec un peu de bel canto. Merci.
Merci à vous.
È bellissima, più d'antorni c'è stil vero, già per virtù simpatica, toccato tutto il cor. Vi piace?
Donizetti, un extrait d'Élixir d'amour. Vous avez peut-être reconnu la voix de José Carreras. Il y avait également Katia Ricciarelli, Susanna Rigacci et Domenico Trimarchi, l'Orchestre Symphonique National de la RAI de Turin, dirigé par Claudio Scimone. C'est la fin de Musique Matin. C'était Stéphane Poitevin et Antoine Giraud à la technique, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guillemette, Aïssia Froidur et Margot Muller à la coordination. Demain, notre invité sera une chanteuse de jazz, Leila Martial, de l'autre côté du poste, dans le même poste d'ailleurs, mais de l'autre côté du couloir, Émilie Muner à Rodolphe Bruno-Boulmier, en piste avec un inédit, non?
Alors,
Montéclair.
Ah oui, absolument. Alors, inédit, ça a été enregistré par William Christie, mais pas dans cette version. Comme je sais que vous faites attention, vous première version, deuxième version, troisième version,
totalement,
vous la faites pas. Hein.
C'est ma passion.
Donc c'est là que vous vous êtes dit, ah ce GFT, c'est pas celui de tout le monde. Et on ouvre avec trois stars, Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim et Yo-Yo Ma. Et
Rodolphe Bruno, concerto, peut-être.
Voilà. Et Rodolphe Bruno Boulmier, c'est ma quatrième star.
Et vous, c'est la cinquième.
Voilà, ça fait beaucoup, on fait un petit quart tête.
Venez nous voir de loin, vous serez la sixième.
De très loin.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.